Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
Des messages de détresse, Claude, dissimulés dans des vêtements.
Oui, ça se passe en Turquie où, tels des naufragés envoyant des bouteilles à la mer, des ouvriers naufragés du capitalisme ont laissé des petits mots dans des vêtements de la marque Zara. J'ai fabriqué l'article que vous vous apprêtez à acheter, mais je n'ai pas été payé pour. S'il vous plaît, dites à Zara de nous payer. Le mot est signé des ouvriers d'une usine abandonnée par son propriétaire et fermée en juillet 2016. Bravo textile, une, nous dit Libération, parmi les milliers d'entreprises turques qui servent de sous-traitants aux grandes marques occidentales. Mais ces grandes marques, dont Zara, rechignent à mettre suffisamment la main à la poche pour se substituer au patron défaillant, d'où le coût de communication des ouvriers et de leurs syndicats. Réussi, la preuve, nous en parlons. Cette histoire est une petite leçon sur la circulation de l'information. Les petits mots ont été déposés dans les poches des vêtements Zara le 1er novembre. L'agence américaine Associated Press a sorti l'affaire vendredi dernier 3 novembre. Elle est arrivée en France hier par le site Mashable. Elle est dans Libération ce matin. Le social n'est donc pas encore entré dans l'ère de l'instantanéité de l'information. Deuxième petite leçon, cette fois sur l'économie de la sous-traitance. 2 millions de personnes en Turquie, nous dit Libération, souvent dans de petits ateliers illégaux, hors d'atteinte des contrôles, ateliers qui sont aussi alimentés par la masse des réfugiés syriens. C'est une autre manière logique d'envisager la mondialisation, presque symétrique et complémentaire de la fluidité paradisiaque de l'optimisation fiscale dont nous vous entretenons depuis hier, nous et le journal Le Monde qui titre sur les 350 milliards de l'évasion fiscale.
Mais ces Paradise Papers, Claude, provoquent aussi le débat.
Et ils provoquent même la réprobation. Nos révélations seraient, je cite, la nouvelle tambouille de la loi et de la morale. C'est le patron de l'opinion, journal libéral, Nicolas Bétou, qui dénonce à la une de son journal cette confusion des valeurs et une nouvelle hiérarchie des normes. Je cite, « Le vol de millions de documents grâce auxquels cette affaire est renseignée n'est plus un acte contraire à la loi, mais un service rendu à la morale. » Et la mise en accusation mondialisée de tel ou tel n'est plus une négation du droit universel à se défendre, mais un appel collectif à la moralisation, réprobation de belle facture, mais que les partisans des Paradise Papers vont évidemment balayer d'un sourire. Réponse donc d'un sénateur communiste Éric Bocquet dans L'Humanité, on est au-delà de l'immoralité. Et il ironise, si l'optimisation est légale, pourquoi tant d'opacité pour dissimuler ces pratiques? Dans La Croix, la responsable, une responsable du comité catholique contre la faim et pour le développement. Rison Rebinder affirme « Ce qui est immoral doit être rendu illégal, sans doute, mais comment ?» Ce débat n'est pas médiocre parce qu'il pose les limites de la droit, du droit et de la politique et de nos impuissances. On retrouve aussi ces limites dans le dossier de Une de Libération sur l'incapacité de l'État et de la justice à résoudre les scandales sanitaires. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que des ouvriers meurent? Parole de Madame Janine Rouder, ancienne d'une manufacture d'amiante qui s'appelait Amisol, intoxiquée pendant 8 ans du matin au soir, sans réponse judiciaire. Nicolas, quand le droit s'arrête, c'est le moment où on commence à crier.
Et on poursuit cette revue de presse, Claude, avec un footballeur virtuel à Nantes.
Un héros discret et d'actualité, ce jour où les Échos et le Parisien annoncent la sortie d'une nouvelle console de jeu. Lui, il s'appelle Adrien Viau, 29 ans, donc footballeur virtuel, vous l'avez dit, au FC Nantes, ou plutôt représentant du Football Club de Nantes dans les compétitions du jeu FIFA 18. On le voit en photo dans un jeune site internet qui s'appelle RDV Photo. Très bien fait ce site. Donc Adrien, maillot canari sur le dos, défend l'honneur de son club derrière une console. Et nous dit-on, c'est aussi un moyen d'attirer au stade des jeunes, parce que le public du football serait vieillissant, le virtuel ou l'avenir du spectateur. Cette phrase nous marque quand on lit L'Équipe, où cette fois un footballeur de chair et de muscles et de sueur évoque des passions presque aussi immatérielles. Voilà donc Nabil Fekir, le Lyonnais, l'homme qui a brandi son maillot à la face du public stéphanois dimanche dernier, quand son club de Lyon humiliait les Verts. Résultat, envahissement du terrain et violence. Fekir s'explique un peu partout ce matin, mais c'est dans L'Équipe qu'on comprend le mieux les enjeux d'une affaire qui n'est pas futile. Elle interroge d'abord la violence collective. Savez-vous que les supporters de Saint-Étienne désormais sont privés de leader? Ils sont interdits de stade pour des motifs administratifs, mais voyez-vous, sans leader, les foules font n'importe quoi. Elle interroge aussi cette affaire, le patriotisme de Clocher. Je cite Fekir dans L'Équipe. Ce qui m'importe, c'était de rendre fier notre peuple. Je suis lyonnais, l'OL, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est tout. C'est pour ça que j'ai voulu brandir ce maillot. Il dit notre peuple, Fekir. Ah, les footballeurs, Nicolas? Ben non, pas seulement les footballeurs. Tiens, à propos de patriotisme, j'ai noté ceci. L'Alsace célèbre votre prix Renaudot, Olivier Guès, comme celui d'un écrivain. alsacien. Les dernières nouvelles d'Alsace le célèbrent comme celui d'un écrivain strasbourgeois. Tandis que vous, Éric Vuillard, votre Goncourt, selon le Progrès, est celui d'un romancier lyonnais. Mais Ouest-France vous, annexe. Pour Ouest-France, vous êtes un écrivain rennais. Nous sourions tendrement devant ses fiertés.
Allez, un roman politique, Claude, venu de la Révolution d'octobre.
Et pour qui
finir.
S'impose aujourd'hui, Nicolas, avec ses deux prix littéraires qui transcendent l'histoire. C'est dans le site Uzbek Erika qui nous invite à redécouvrir Evgeny Zamyatin et son roman « Nous ». Ce fut, en 1920, la première description d'une société totalitaire. Elle a inspiré ensuite Orwell et son 1984. Il est écrit donc par cet écrivain, Evgeny Zamyatin, qui était un vrai révolutionnaire, mais qui a senti très vite que le bolchevisme tournerait à la dictature. Il allait mourir en exilé politique à Paris. « Nous », c'est un roman de science-fiction. La description d'une société normée, je cite, « un état unitaire, guidé par un bienfaiteur dans lequel la pensée et l'émotion individuelle sont proscrites, l'industrie est célébrée, les êtres s'accouplent selon des équations et l'on prépare une fusée qui va enseigner le bonheur mathématique aux extraterrestres. Ça se lit dans Uzbek Erika et en livre, et cela s'écoute, la langue de Zamyatin. Nous sommes fondus en un corps unique aux millions de bras. À la même seconde fixée par les tables, nous portons notre cuillère à la bouche. À la même seconde, nous sortons pour la promenade. C'était en 1920. Ça annonçait bien sûr Staline et la suite, mais enfin, ces tables mathématiques qui régissent la vie des hommes font aussi penser aux algorithmes des monstres d'Internet. Un écrivain avait donc tout vu et tout de suite et tout anticipé. Comme souvent, Nicolas, le journaliste s'incline devant les romanciers.
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse.